Un autre avis de risque de gel au sol pour ce soir, puis c'est peut-être pas le dernier de la semaine, hein, en passant. On a 11 degrés présentement à Québec. Pas mal plus de soleil que de nuages. Il y a quand même un 30 % de probabilité d'averse pour ce soir, cette nuit et la fin de journée. Le minimum est à moins 1 pour la nuit prochaine, demain, du soleil d'abord. Quelques nuages pour l'après-midi, maximum 13 degrés. Je vous disais que c'est peut-être pas le dernier avis de gel au sol. Le minimum pour la nuit de mardi à mercredi est à 0 degrés. Après ça, ça va aller mieux au niveau des minimums à tout le moins. Soleil mercredi, maximum de 15, de la pluie pour terminer la semaine jeudi et vendredi avec des maximums de 12 et de 13 degrés. Sur les routes, Audrey, ça se passe bien?
Ça va quand même bien. Il y a sur Henri IV Sud où on sent un petit ralentissement à hauteur Charest, mais pour le reste, ça roule à date. Puis si vous voyez autre chose, 88-971-102 texto.
On va-tu réussir à passer une journée cette semaine sans dire « Hey, mon Dieu Seigneur, Patrick Bruel est donc ben un gros dégueulasse ». Eh bien non, non, on n'aura même pas besoin d'attendre à demain, Véro.
Oui, c'est le Elle France qui a poursuivi son enquête, puis c'est la presse qui a relaté ça dans un texte qui vient tout juste d'être mis en ligne. Puis jusqu'à maintenant, on avait l'impression que toutes les femmes qui ont dénoncé des agissements qu'aurait porté Patrick Bruel étaient des femmes du côté de l'Europe.
Pourtant, on aurait dû y penser parce que Bruel est un chouchou des publics québécois, puis il est venu très souvent. Il a fait des tournées de presse, des tournées de médias et ainsi de suite.
Pour ceux qui l'ont manqué la semaine dernière, l'enquête qui se poursuit de Média Art et de Elle France fait état de plus d'une trentaine de femmes qui l'accusent soit d'attouchement, d'agression sexuelle ou de viol. Il y a 3 cas jusqu'à maintenant qui sont judiciarisés, mais les histoires s'accumulent. Et là, on nous relate l'histoire d'une journaliste québécoise, en fait au Québec, qui a rencontré Patrick Bruel pour une entrevue en octobre 2017 et qui a fini par porter plainte à la police contre les agissements de Patrick Bruel. Elle était âgée de 28 ans à ce moment-là.
Elle a porté plainte à la police en 2017?
En 2017.
Comment ça se fait que personne ne savait ça?
Probablement qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour être capable de porter des accusations. Puis on a eu beaucoup d'histoires comme ça au courant des dernières années. Des dossiers qui étaient virés caducs. On l'a vu dans le cas de Gilbert Rozon, entre autres.
Écoute, moi, je suppose rien, mais je vais supposer quand même. Parce qu'on commence à en avoir là, des documentaires Netflix qui nous expliquent comment ça fonctionne, un prédateur sexuel. Est-ce qu'autour de Patrick Bruel, il y avait des gens très au fait de quel genre d'individu était Bruel, puis qui travaillait fort à effacer les traces de ses nombreux dérapages au fil des années? Parce que ça commence à faire du monde en tabarnouche. Là,
on va mettre Patrick Bruel de côté l'espace de quelques secondes. Mm-hmm. Te souviens-tu de l'histoire de Robert Miller?
Oui.
Future Electronics, c'est une histoire qui avait été mise à jour, entre autres, par l'émission Enquête de Radio-Canada, un multimilliardaire qui voyait des jeunes femmes puis des femmes d'âge mineur dans un hôtel en échange d'argent et de cadeaux. Il y avait des plaintes qui avaient été portées aux policiers.
Oui.
C'était jamais allé plus loin. Puis il a fallu qu'il déterre tout ça pour être capable de porter des accusations contre Miller parce qu'on avait...
Monsieur Poulet.
Soit M. Poulet avait géré ça, qui était son adjoint, c'est pas des jokes.
Pour vrai, il s'appelait M. Poulet, c'était son adjoint. Puis lui, sa job temps plein, c'était d'effacer toutes les traces des agressions sexuelles. Écoute, c'est une excellente question.
T'avais ça, puis t'avais des policiers aussi qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez quelque chose pour être capable d'aller plus loin, qu'on n'avait pas été capable, au DPCP, par exemple, de déposer des accusations.
J'ai l'impression, j'ai l'impression que le gars travaille au Renault dépôt, puis il est accusé.
Il y a des détails qui me manquent, parce que là, je vous résume brièvement cette histoire-là. Mais pour revenir donc au texte qu'on retrouve dans la presse, on remonte en avril 2017. À ce moment-là, Patrick Bruel est en tournée média au Québec pour son spectacle « Bruel chante Barbara ». Et il est supposé rencontrer la journaliste dans le restaurant de son hôtel à 10h45 le matin. Mais Patrick Bruel, lui, propose de faire l'entrevue ailleurs parce qu'il dit que c'est bruyant, qu'il se sentait fatigué. Donc, les deux s'enlignent vers l'ascenseur et finalement, à sa grande surprise, il se retrouve dans la suite du chanteur. L'équipe de Patrick Bruel n'y est pas, son équipe de presse. Donc, elle s'installe, elle fait son entrevue avec lui, elle l'enregistre, c'est une entrevue de 8 minutes. Elle ramasse ses affaires, mais quand elle a essayé de quitter en mettant son manteau, le chanteur, lui, aurait essayé de la retenir, lui proposant d'abord de déjeuner. Puis ensuite de ça, elle a comme fait « Hey non, mon parcomètre va expirer, j'ai 45 minutes de route avant de retourner à la station, je peux pas rester. » Et lui se serait mis en travers de son chemin ou la porte d'entrée, l'aurait serré dans ses bras en disant « C'est bon de te sentir contre moi. » Là, elle dit « Je comprends que c'est pas normal, qu'il en veut plus. » Il m'a ensuite pris le visage entre ses deux mains pour m'embrasser sur la bouche. Je l'ai repoussé. Il m'a repris contre lui très fort en me demandant de le serrer. Je tremblais tellement j'étais incapable de bouger. Je l'ai repoussé à nouveau en lui disant pour la dixième fois que je devais partir. Et là, il a essayé d'enlever mon manteau. Il m'a encore embrassé de force. Je ne sais plus comment j'ai réussi à ouvrir la porte et à m'enfuir. C'est seulement au mois d'octobre qu'elle a choisi de faire un signalement à la police de Montréal et le Air France a pu consulter le signalement à la police.
Faut que tu le fasses souvent pour le faire de façon autant décomplexée.
Et là, vous allez voir, le Air France est allé jusqu'à contacter l'attaché de presse du chanteur au Québec. Elle a dit qu'elle est arrivée pendant l'entrevue là, de manière totalement silencieuse au beau milieu, qu'elle n'a pas assisté à leur au revoir qui se serait déroulé dans le sas d'entrée à la suite, à l'abri des regards, mais juge à 1000% impossible le récit de la journaliste. Le FOC, c'est que la journaliste a certifié à l'équipe d'Air France, texto à l'appui, qu'il n'y avait personne avec Patrick Bruel et que l'attaché de presse ne s'est jamais présenté.
Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont habitués de faire le ménage pour Patrick Bruel. Ça veut dire que les gens autour savent ce qui se passe puis qu'ils essayent de le couvrir de toutes les façons possibles. Et au Québec et en
comment
France.
Comment tu fais taire quelqu'un? Moi, il n'y a pas un montant que tu pourrais me donner qui fait en sorte que j'accepterais de compromettre mes valeurs.
Je sais ce que tu vas me répondre, mais je me sens obligé de poser la question quand même. Même si la vache à lait qui est Patrick Bruel fait en sorte que tu gagnes très bien ta vie.
Il y a tellement de jobs dans le monde, Denis.
Oh oui, je suis d'accord.
Mais je savais que tu t'en allais là, j'étais sûre à 100 %. Il y en a qui sont assez à l'argent pour ça. Mais je me dis, ces gens-là, à moins que tu sois vraiment un tout croche qui n'ait personne dans la vie, là, pas de famille, pas, rien qui t'accroche, mettons, puis que tu te dis, bon,
non, mais tu sais, des fois, quand tu admires quelqu'un, tu ne veux pas voir ses défauts. C'était tu ne veux pas voir ses mauvais plis.
Oui, mais là, c'est parce que là, tu es complice. Là. Ça va plus loin que ça. C'est pas juste de l'aveuglement involontaire.
Non, mais tu sais, de donner le bénéfice du doute à outrance. Je pense que ça existe beaucoup plus qu'on
pense. Il faut être cocon pour vivre dans ce nuage-là.
On est rendu à 30 personnes qui sont sorties de l'ombre. Ça veut dire qu'il y a des gens autour là, qui ne faisaient pas semblant que ça n'existait pas. Il y avait des gens qui savaient que ça existait puis qui travaillaient pour le camoufler. Maintenant, il faut savoir quel a été le plus grand crime de Patrick Bruel. Agresser au moins 30 femmes ou chanter l'Aigle Noir dans une tournée québécoise? Ça, je vous laisse répondre à cette question-là. Je pense que les deux sont garants d'accusations criminelles. Oui.
Je vous rappelle que c'est pas tous les cas qui sont judiciarisés, qu'il y a toujours la présomption d'innocence, mais disons que ça fait beaucoup de fumée de petit feu.
Mettons. Il est 15h11. On a parlé de sport en début d'émission. Puis, vous le savez, c'est les séries. Toutes les équipes essayent d'accéder au prochain niveau, la demi-finale, la finale, gagner la Coupe Stanley. Savez-vous que ça fonctionne pareil pour les arbitres? Le saviez-vous?
Hein? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, les arbitres sont en série aussi, eux autres, présentement. Max m'a envoyé un super de bon texte ce matin qui est dans la presse. La Ligue nationale de hockey a 35 arbitres et 35 juges de ligne à temps plein cette saison. Quand on commence les séries au premier tour, il y en a 22 qui font les séries. Okay, ça veut dire que tu as déjà éliminé tes arbitres les plus jeunes, tu as éliminé tes arbitres que tu considères qui ne sont pas encore prêts à réagir à la pression des séries éliminatoires.
C'est, donc bien,
c'est exactement comme les équipes. Il y a un classement qui est fait à la mi-saison où tu reçois un bulletin, puis tous les arbitres sont classés comme des équipes de hockey.
Il y a des critères pour être capable de compléter le bulletin?
Je vais y venir. Hey! Je les ai, les critères. Hey, la presse a fait du beau boulot. Puis on nous donne un exemple qui est arrivé en première ronde. Brandon Blandina, qui a connu son baptême des séries cette année, a fait équipe avec Wes McCauley. Ça, c'est le duo d'arbitres qui a arbitré le match numéro 4 de la série Canadien Lightning au Centre Bell. Vous vous souvenez peut-être de punitions envers Alex Newhook et Yannick Gourde sur des bases qu'on va qualifier de discutables. Les deux calls, c'est Brandon Blandina. Okay? Lorsque le Lightning et le CH se sont retrouvés pour le match numéro 7, McCauley était encore arbitre, mais cette fois avec Chris Rooney, parce que Blandina a été éliminé ce soir-là. Parce qu'on a jugé, on a jugé à la réécoute qu'il avait fait des mauvais calls, qu'il avait eu un mauvais jugement, et il a été éliminé.
est-ce que ça voudrait dire que, mettons, plus t'avances dans les séries, plus ceux qui ont des mauvais calls vont être un peu écrémés?
Encore faut-il que ça suive les directives de la Ligue nationale. T'sais, moi, il y a des affaires que je comprends pas en séries éliminatoires. Qu'un cross-check dans le dos soit pas pénalisé, mais qu'un accrochage le soit, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est que tous les matchs sont visionnés. Toutes les pénalités qui sont décernées sont analysées après coup. La sélection est faite en fonction des performances, mais aussi de l'expérience. Ce qu'on dit, c'est, mettons qu'on a besoin d'un arbitre pour le match 7. Si tu en as déjà fait 10, il y a des bonnes chances que tu en fasses un 11e, parce qu'on dit que c'est... T'sais, les arbitres stressent aussi. Puis il y avait un arbitre qui racontait dans le texte de la presse, il dit, moi, mon premier 7e match, là, les 5 premières minutes, j'ai eu une jambe qui n'arrêtait pas de shaker tellement j'étais nerveux. Puis tant que j'ai pas décerné ma première punition, j'ai pas été capable de me calmer les nerfs.
Mais voyons donc.
Parce que autres aussi, avoir peur de te tromper.
Tu sais, nous autres, on est là, puis les arbitres sont pourris, puis les arbitres sont pourris.
Faut qu'il y ait une reprise.
Entre vous puis moi, ils n'ont pas le goût d'être pourris, là. Ils ont le goût d'être bons. D'autant plus que les bonus monétaires pour ceux qui continuent en séries éliminatoires sont très appréciables. En 2025-2026, OK? Les primes pour les arbitres, c'est 31 000 $ pour chaque ronde éliminatoire travaillée. Les juges de ligne, c'est 19 500 $. Le salaire d'un arbitre, Ligue nationale de hockey, c'est 240 237 $ à la première année.
Combien?
240 000.
Ah oh, oui!
240 000. Après 18 ans d'expérience, t'es rendu à 562 000 de salaire. Les juges de ligne, tu commences à 153 000 la première année. 22 ans d'expérience, t'es à 340 000. Donc, un arbitre qui va atteindre la finale va aller chercher 124 000 de plus en salaire. Un juge de ligne va aller chercher 78 000 piastres de plus. À ce prix-là, t'essayes d'être bon.
Puis je suis contente de savoir qu'ils sont bien payés parce que moi, chaque fois que je les vois sur la glace passer proche de manger un coup d'épaule, une poc, n'importe quoi, je me dis, j'espère qu'ils gagnent bien leur vie.
Honnêtement, je veux pas diminuer ce travail-là. C'est de l'argent en sacrement.
Ouais, imagine, sur la glace, Audrey, il y a tellement d'argent. Les salaires des joueurs de hockey sont tellement élevés. Si tu veux avoir les meilleurs pour les arbitres, t'as pas le choix, là.
Oui, mais c'est con. C'est peut-être juste parce que j'ai jamais... C'est niaiseux, ce que je vais dire, là. Mais je pensais pas que ça pouvait comme être une job de vie.
Oui, rendu à ce niveau-là, c'est comme n'importe quoi.
Tu l'aurais considéré sinon, hein?
Ben, là, mais... moi, j'aurais été une arbitre excellente, on le sait tous. Là. non, mais on dirait que ça m'épate parce que j'avais comme jamais pensé à cet aspect-là, moi, dans ma tête. Un arbitre, je veux dire, c'est un arbitre, là.
C'est un arbitre à 500 000, tu le sais.
Ah, parnouche!
On nous mentionne un autre exemple qui a été frappant dans les dernières années. En 2019, la Ligue nationale de hockey confie un match numéro 7 entre les Sharks et les Knights à deux arbitres d'expérience, Eric Furlatt et Dan O'Halloran. Les Knights mènent 3-0 en milieu de troisième période quand l'attaquant des Sharks, Joe Pavelski, se blesse sur une mise au jeu. Sur le coup, les officiels ne donnent pas de punition, mais après consultation, ils imposent une pénalité de 5 minutes à Cody Eakin des Knights. Les Sharks marquent 4 buts pendant cette punition-là, remonte la game 4-3 et gagne finalement le match en prolongation. La reprise montrera que le geste d'Eakin était banal et que Pavelski était simplement mal tombé puis que c'est comme ça qu'il s'était blessé. La Ligue nationale de hockey s'était excusée aux Golden Knights et les séries des deux arbitres, Furlatt et O'Halloran, se sont terminées ce soir-là.
Pendant que tu racontais cette histoire-là, il y a des textos qui sont rentrés qui sont assez judicieux par rapport au salaire. Faut pas que tu sois achetable comme arbitre. Fait que t'as pas le choix d'avoir des gros salaires parce que tu veux pas de corruption.
Exact. Puis,
moi, c'est une insulte que j'ai déjà entendue sur une patinoire là, dans des séries de télé-réalité de hockey, là, mais des joueurs de hockey qui disent à l'arbitre « C'est toi ici qui gagne le moins à soir. » Ça fait partie des choses, des fois, que tu dis quand t'es pas de bonne humeur. Je pense que c'est mieux de faire une face comme Slavkovski puis de se ramasser mime.
Avec des gros yeux.
Ouais, avec les gros yeux. les critères d'évaluation quand t'évalues un arbitre, parce que dans le milieu de la saison, ils font un classement complet. Si t'es arbitre, tu reçois ton bulletin. Tu sais pas si t'es premier, huitième ou 75e, mais ils te disent... Qu'est-ce que t'as à améliorer? Qu'est-ce que t'as fait de pas correct et ainsi de suite?
J'imagine que dans les tests physiques, ton aptitude à te grimper sur le bord de la bande quand il y a une poque qui s'en vient direct dans ta direction.
À être invisible.
Oui. Ben, on va rentrer ça dans le coup de patin.
Ça tend si vite.
T'es-tu capable encore de suivre la game quand ça fait deux minutes qu'il n'y a pas eu de coup de sifflette? C'est toujours bien des patineurs de la Ligue nationale de hockey, tu sais. Mm-hmm. T'es-tu capable de suivre le jeu? T'es-tu essoufflé? C'est le genre de choses qu'ils regardent, les boss de la Ligue nationale de hockey, pour suivre le rythme d'un match. Le positionnement, tu parlais de se tasser du jeu, mais de ne pas être trop loin.
Il faut que tu sois concentré, c'est un méchant
temps. Ben oui, puis ça devient une forme d'art d'être près du jeu, mais jamais dans les jambes de personne.
Sais-tu l'année passée qu'un arbitre a pogné un lancer sur un tibia?
Ça arrive.
Ils l'ont sorti de la glace. Hey, ça avait pas l'air le fun.
On évalue le jugement et la connaissance des règles tout en étant constant et ferme dans les décisions. Et aussi le comportement, c'est-à-dire réagir sous pression tout en faisant preuve de confiance et d'assurance. Les arbitres qui reçoivent leur rapport annuel par courrier à la mi-saison, ils font un classement, tu vois pas ta position, mais ils te disent où tu te situe par rapport au standard. S'ils voient une tendance sur un type de pénalité, ils te le disent. Genre, tu pénalises peut-être un peu trop l'accrochage puis pas assez les cross-checks. Gardes-tu un bon écart avec le jeu? Si après deux minutes sans sifflette, t'es plus capable de suivre, ils te le disent. Te fais-tu souvent frapper par des joueurs, par la rondelle? C'est des affaires qui sont évaluées. Ce qui fait en sorte qu'il y a quelques arbitres qui ne prennent pas part aux séries éliminatoires. Puis pour eux autres, ils sont en play-off aussi. Le but des arbitres et des juges de ligne, c'est de se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley.
Comment s'appelait le gars qui a joué à Superman hier sur Dobesch? Est-ce que c'est Beck Malenstein?
Oui, c'est Malenstein.
Il est mis à l'amende en raison de son geste à l'endroit de Dobesch pour 3 515,63 $.
Donc, vraisemblablement, Carber Jackay va lui aussi avoir une amende pour ses coups de poing en fin de match. C'est confirmé. Oui. Ah ben good, on va pouvoir parler avec Max Larouche là, d'ici 18 heures pour faire le tour. Mais je pense que tout le monde s'entendait pour dire que la meilleure façon de calmer le jeu, c'était pas donner de suspension à personne et probablement donner... C'est quoi le montant maximum d'amende? C'est 5 000?
De mémoire, oui.
Fait que moi, j'ai l'impression que, vois-tu, on donne 3 515 $ d'amende à Malenstein pour avoir foncé sur Dobesch comme un maudit malade, là, on va se le dire.
3 385 à
Jackay. Ah, OK, c'est le même montant. Donc,
À peu près, à quelques détails près, là, il y a ben, 200 pièces de différence.
Rendu là, veux-tu même dire comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça, là? Entre toi et moi. Là. Mais je pensais qu'elle allait donner... c'est le même montant, c'est le maximum en séries éliminatoires, nous dit Max.
Fait
que tu peux pas donner 5 000 $.
Ce serait les deux seuls.
Oui, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait d'autres.
Non.
Okay. À la lumière de ce que j'ai vu hier, je sais qu'il y en a qui ont trouvé que les Sabres avaient joué salaud en troisième période. Je me disais que ça aurait été pas mal pire si ça avait été Lightning dans leur position. Je les ai pas trouvés... si pire que ça. Bref, on va en reparler tantôt avec le chum Max. On va regarder aussi les possibilités que le gardien change du côté des Sabres de Buffalo. Quand ils avaient commencé leur série contre Boston, c'est pas avec Lyon, c'est avec l'autre gardien. Puis après deux games, il l'avait tassé, entre autres, parce qu'il avait donné un but très vaseux à partir de la ligne rouge, un lob qui avait mal rebondi. Fait que probablement que si Cole Caulfield veut recommencer à scorer, qu'il laisse faire l'enclave puis les oreilles, là, il a juste à se mettre à rouge puis à lobber là, à partir du prochain match. 3h21, on s'arrête pas longtemps, puis on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. Hey, je veux laisser quelques secondes à Paul de s'installer avec nous autres. Ça va me permettre de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec Club Jouet cette semaine. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. S'il y a des problèmes sur les routes ou ailleurs, évidemment, gênez-vous pas. C'est à la gang qu'on s'informe, le 418-971-1021. Chez Club Jouet, il y a tout ce que ça vous prend pour un été fantastique en famille. Des maisonnettes aux trottinettes, c'est joli, hein? En passant par les bacs à sable, les jeux d'adresse, les jouets pour la piscine, les accessoires pour apprendre à nager, que ce soit dans votre piscine ou dans celle d'un voisin qu'on bombe, les téléguidés ou même les jeux pour animer vos soirées au camping. Et cette semaine, on vous invite à noter nos articles coup de cœur pour courir la chance de remporter 250 $ de cartes cadeaux chez Club Jouet. Il y a moyen de se gâter solide. Vous allez inscrire le jouet recommandé au blvd.fm section concours. Et aujourd'hui, la recommandation, c'est avion radio commandé. Vous allez inscrire ça au blvd.fm section concours. C'est aussi simple que ça. Avion radio commandé. Samedi, on annonce le gagnant, la gagnante, qui pourra profiter pleinement de son été et s'amuser non-stop grâce à Club Jouet, clubjouet.com 1100. Rue Bouvier, ne manquez pas nos chroniques. Tellement content de revoir nos amis de Club Jouet qui sont venus la semaine passée. Mm-hmm. et qui vont revenir dans les prochaines semaines pour des suggestions sur les routes. Est-ce qu'il y a des choses à signaler, Audrey?
Ça commence à s'installer si vous êtes sur la capitale, direction Est, auteur Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction Nord, dans le coin de Wilfrid Hamel, on sent un certain ralentissement. Si vous êtes sur Henri IV Sud, dans le coin de Charest, ralentissement à prévoir également. Charest Est, d'ailleurs, quand vous allez chercher la bretelle pour Duplessis Sud, dans la bretelle, il y a des problèmes également. Puis bien, l'entrée des ponts, ça commence tranquillement pas vite. Pour la rive sud, c'est dégagé. Évidemment, il y a autre chose. 88-971-102 texto.
Paul Lévesque est spécialiste du comportement humain. Paul, bonjour.
Ben bonjour à vous trois.
Comment ça va?
Trois soleils.
Ah oui?
Mais pour vrai, moi, quand je viens, là, je sais que je m'en vais au chaud.
Oh, c'est crime,
cool, vrai, là.
C'est rare qu'on me qualifie de soleil un lundi. Là.
C'est
ben,
vrai.
Franchement, là, je...
moi, je suis capable de voir au-delà des apparences.
C'est bien, c'est bien. Alors, on parle de justification aujourd'hui, oui. Puis du fait de se justifier.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, là-bas, je voyais ça comme peut-être un comportement positif d'être capable d'expliquer qu'est-ce que tu fais puis pourquoi tu le fais.
Ben, tu vois, se justifier, c'est justement pas s'expliquer.
Ah, OK.
Se justifier, c'est comme... l'image que j'ai, c'est comme remettre des dards à l'autre pour qu'il nous le retourne dans le front. Donc, ce que ça veut dire, c'est comme de donner le pouvoir à l'autre en lui suppliant de nous comprendre et en donnant des excuses, beaucoup d'excuses.
OK.
Donc, tu vois, c'est pas expliqué. Et c'est toujours comme rentrer dans le mur, se justifier.
Mais comment on fait la distinction entre quelqu'un qui donne des explications sur le pourquoi c'est arrivé puis ce qu'on va appeler de la justification qui est peut-être moins saine?
La justification va prendre plus l'allure de la supplication.
Mm. Donne-moi un exemple.
Ben, va t'en donner un. non, mais je vais t'en donner un pour vrai. Un jour, je vais dans une classe lors de la remise des bulletins.
Oui.
Parce que j'ai fait de l'intervention. La prof me dit, Paul, je me sens pas bien. Il y a un papa qui est opposant. Puis je dois lui parler de son enfant qui est opposant. Tu sais, la pomme, elle tombe
pas loin de l'arbre.
Loin de l'arbre, mettons, là. Et quand papa est arrivé, c'est même pas assis, là, donc de toute sa gloire, il était en train de démontrer que...
C'était lui le boss.
C'était lui le boss des Bécosses. Et elle a senti un malaise parce qu'il faut que tu comprennes que quand on justifie, c'est souvent associé à un malaise.
Mm-hmm. Tu vas en dire plus qu'il faudrait que tu en dises.
Tout à fait. Puis tu sens le malaise. C'est peut-être là le code. Donc elle m'a dit, moi je suis mal à l'aise devant cette personne-là. Mm. Et elle a commencé à parler de son fils. Et elle a commencé en se justifiant parce qu'elle était mal à l'aise. Donc, à quoi ça ressemblait? Écoutez, il faut que je vous parle de votre fils, mais vous savez, j'en ai pas juste un, j'en ai 30.
OK.
J'ai été malade, okay. Beaucoup.
OK, oui.
Bon, etc.
Sa mère n'est pas là, puis ouais, OK.
Bon, etc. Parce que... Et là, ce que ça a fait, c'est... Bien, monsieur lui a rentré dedans en disant, si t'es pas capable d'enseigner, reste chez vous.
Mmh.
Non, mais tu... oh, ouais. Ça, c'est l'exemple vraiment vivant, là. C'est vraiment arrivé. Donc, se justifier, c'est... D'abord, un malaise, et tu donnes des excuses. Je sais pas si tu vois la différence.
Ouais. Ça part d'une insécurité, c'est sûr.
Ben, c'est ça, j'allais demander s'il y avait des types de personnalités plus enclines à se justifier constamment. Oui.
On l'est toutes.
Selon le contexte et selon les personnes qu'on a en face de nous autres,
oui,
je pense.
On l'est toutes. Je dirais, on a tout le temps quelqu'un devant nous qui peut être un potentiel bullying.
Ouais.
Y a des gens qui ont un ratio plus petit. C'est-à-dire qu'il y a moins de styles de personnes qui vont venir les heurter. Il y a d'autres personnes beaucoup plus sensibles que, dès qu'on fait boue, ils ont l'impression qu'il y a un malaise, tu comprends?
Mais fondamentalement, c'est jamais de leur faute. Toutes catégories confondues,
non,
ceux qui justifient.
Ça peut être de leur faute, c'est juste qu'ils vont donner des munitions à l'autre.
C'est
ça. Ils vont enrober. Oui. Tu sais, au lieu d'aller droit au but en disant... Voici, il s'est passé telle chose, ça ne fonctionne pas. Ils vont tout mettre de la fioriture, puis c'est cette fioriture-là qui devient risquée, entre guillemets. C'est ma lecture, là?
Oui, puis aujourd'hui, je voulais vous proposer quoi faire à la place.
Ah, ouais, donc?
Ben oui, non, mais c'est ça. Puis, une des choses importantes, juste pour vous aider à faire une différence, quand vous aurez un doute, à savoir, je suis en train de me justifier ou j'ai un... Bon. Faites la méthode du journaliste. Ben là, allez pas fouiller ça. Là. C'est moi qui appelle ça de même. Là, vous allez risquer d'être perdu. Le journaliste, lui, va toujours commencer sa phrase par « je t'informe
mm-hmm. ».
Quand tu commences ta phrase par « je t'informe », tu viens de qualifier ton propos autrement. OK? Donc, si la prof de tantôt, on prend ça comme exemple,
oui.
aurait dit « Monsieur Beaudoin, je vous informe que dans la classe, c'est difficile avec votre fils ».
Okay.
C'est difficile de dire, je vous informe que, tu sais, se justifier avec je vous informe, c'est plus difficile parce que je vous informe, c'est comme si tu disais...
On va droit au but.
Oui.
Mm-hmm. OK.
Mais se justifier peut avoir plusieurs qualificatifs. Tu parles trop, t'en rajoutes. Tu te mets les pieds dans un plat. Puis tu essaies de persuader l'autre. À partir du moment où tu essaies de persuader l'autre, là, je t'en supplie, il faut que tu me croies. Ouais. Je t'en supplie, il faut que tu m'écoutes. Tu
essaies de gagner ton argument. Là.
Oui, alors là, tu es dans la justification. Alors, ce que je vous propose, mis à part le journaliste, vous me direz, dans tout ce que je vais vous donner, jusqu'à temps que notre temps soit épuisé, tu me crois aussi, mais je veux dire, parce qu'il y en a à l'infini, là, finalement, mais je vous en ai sorti quelques-uns, les plus populaires, puis ceux qui fonctionnent.
Okay.
Puis là, tu sais, moi, je suis musicienne, j'ai appris une chose. C'est en pratiquant qu'on vient bon.
Mm.
Le problème, c'est qu'on démissionne alors qu'on serait sur le bord de devenir bon. Tu seras pas bon tout de suite, là.
Non.
Mais je te jure, ça marche. Je te jure, ça marche. À 2000%.
Me regarde. Le nombre de fois, Audrey, que je t'ai dit, pas besoin de justifier.
Je sais, c'est fou. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait des types de personnalités. Hey, parce que Dieu. Je sens que quand t'es people pleaser un peu puis tu veux pas te déranger...
J'ai comme le souvenir d'une chronique chaloux où t'avais pas aimé un produit. Puis
t'es justifié tout le long pendant 5 minutes.
Ah oui, c'est
alors que je disais, hey, en 7 ans de chronique, il y en a un que t'as moins aimé. T'as juste à le dire, puis c'est pas grave.
Ah non, elle prenait une pelure de banane, puis elle la remettait en avant d'elle constamment.
Ah, c'était drôle, ça, oui. Je viens de comprendre.
C'est le risque.
Ouais.
Ben, tu vois, dans ta tête, se justifier, faut qu'il y ait un malaise que t'avais.
Uh-huh.
Oui, c'est ça. Mais je te dirais, pour résumer, quand t'es sensible ou hyper sensible, t'es plus à risque de te justifier.
Mm-hmm.
Le premier que je vais vous proposer, bien, mis à part le journaliste, c'est l'avocat.
OK.
L'avocat, lui, son art, c'est les questions. Mm-hmm. Donc, tu réponds par une question.
Je travaille beaucoup de même avec mes enfants maintenant. Oui.
Puis t'es bon.
En posant des
est-ce
questions.
Est-ce que ça marche?
Ça étire la conversation, puis ça donne un petit peu plus de réflexion, je trouve. Puis toi, comment t'as trouvé ça? T'sais? Au lieu de dire, hey, c'est pas hier, tantôt quand, ouais. quand t'as pété une note ou n'importe
j'adore
quoi.
J'adore ça, ouais. Denis, je te le dis, t'es sa bonne voix.
OK.
Donc,
okay.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, bon, prenons un enfant, puisque tu m'attires mon attention là-dessus. C'est pas juste. Il est 7 heures, tu me demandes de rentrer, puis il fait beau dehors. Tout le monde entier est en bicycle, sauf moi, je suis puni, maintenant. Au lieu de te justifier, de dire et de recommencer, tu sais pourquoi, je te l'ai expliqué, quand tu dors pas, tu réponds par une question. D'après toi, Jonathan, pourquoi tu dois rentrer? Voilà.
Ouais.
Qui doit se justifier à ce moment-là?
Quand tu viens de leur virer de bord, t'as fait un miroir.
Ah, exact. Oui. C'est l'autre qui est obligé de se justifier. Dans beaucoup de cas, il va dire oh, « OK, le soir, de bord, tu sais, il connaît la réponse. »
Là, on avait des conversations. On a encore des conversations. À chaque fois qu'on revient d'une pratique de hockey, d'une game de hockey, on est dans le char, puis on avait toujours notre conversation de boys, tu sais. Puis c'est tout le temps papa qui donnait ses commentaires. Puis là, j'ai complètement viré ça de bord. Depuis une couple de mois, je commence toujours « Toi, comment t'as trouvé la game? » Comment t'as trouvé ton comment t'as trouvé ton implication? Ouais. Comment t'as trouvé de la façon que t'as réagi à tel geste ou whatever? J'écoute, puis après ça, je donne mes inputs.
Très bon.
OK, bon, tant mieux.
Oui, puis si je faisais du surf avec le papa de tantôt, là, continuons à prendre toujours le même exemple, finalement, la prof s'est effondrée.
Oh.
Parce que le papa là, était déjà pas bien. Fait que moi, j'ai pris le relais, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que vous attendez de l'école?
Oh, c'est bon ça.
J'ai juste retourné. Alors, à ce moment-là, c'est lui qui a été obligé de nommer, puis moi, j'ai réajusté. Donc, c'est extrêmement puissant. Puis, je donne toujours l'exemple en conférence de votre belle-mère.
Oui.
C'est puissant avec votre belle-mère. Tu sais, mettons qu'elle dit tout le temps, « Pourquoi tu viens jamais chez nous? Tu vas, tu viens pas, là, là, là. » Imagine si tu lui réponds, « Georgette, d'après toi. »
Pourquoi je vois pas chier?
OK, ça va. Non,
je voulais juste vous montrer. C'est une petite taquinerie parce que tu peux choisir les questions que tu veux. Mais regardez comment c'est puissant.
Donc, le « je t'informe que » puis relancer une question.
Une question.
OK, un autre.
Le prochain, c'est le curé. Bon, le curé, pourquoi j'ai pris l'image? À cause du confessionnal. Les plus jeunes iraient voir sur Google c'était quoi confessionnal. Tu t'assoyais, tu parlais pas. Non, lui, il parlait pas.
Ouais.
Toi,
il écoutait.
Écoutez, tu sais, moi, je me rappelle d'avoir été au confessionnal une fois, j'avais 5 ans.
Et puis là, on essaie de se trouver des péchés, c'est terrible.
Ben oui, c'est toujours si j'avais pas tué mes frères, tu sais, je veux dire, je savais plus quoi faire. Ben, c'est un peu ça. Quand quelqu'un est... Parce que souvent, quand tu as à te justifier, c'est qu'il y a un malaise. Donc, s'il y a quelqu'un devant toi qui est en train de t'amener dans, reprenons le papa à l'école, vous faites rien de bon, vous le comprenez pas, bon, etc. Ce que j'aurais pu prendre comme stratégie, c'est celle du curé, lui dire, Monsieur Beaudoin, je vous écoute.
Mm-hmm.
Mais tu fermes ta... Mais tu fermes. Je te le dis, ça
marche. Au lieu de te donner des réponses toutes faites, tu m'obliges à en trouver.
Je vous écoute.
Mm-hmm.
Puis là, oublie pas qu'il y a besoin de ta réponse. Fait que tu fais juste dire, je t'écoute, mais il faut que tu fermes ta boîte, puis ça marche, puis il faut que tu aies l'air calme et ferme, pas baveux, pas... Puis là, il va dire, il va finir par s'arrêter, puis moi, souvent, je relance.
Ça, c'est un truc de service à la clientèle, hein?
Je sais pas.
Je pense que oui.
Mais c'est un truc de journaliste aussi, en fait. Là,
ben oui.
Parce que plus tu uses le silence, plus l'autre va sentir le besoin de parler, de se commettre, puis de se justifier. Puis
c'est ça. Fait que rappelez-vous que dans la vie de tous les jours, puis quand il a fini, mettons, c'était le papa, une relance. Est-ce qu'il y a autre chose? On est là pour ça.
Mm.
OK? Puis là, tu le laisses. Puis à un moment donné, là, la ballonne est tellement dégonflée que... Et tu peux finir par l'autre stratégie que je vous propose, le brouillard.
Le brouillard.
Ça, c'est les politiciens qui font ça. C'est que tu réponds quelque chose qui n'est pas une réponse.
Ah, ça, mon Dieu!
Ça, ça gosse.
Pourquoi je déteste interviewer les politiciens, c'est à cause du brouillard.
L'ex-ministre Geneviève Guilbeault était passé maître dans cet art.
Mais on peut l'utiliser.
Oui.
OK, eux autres, ce qui est plate, c'est qu'on les paye pour qu'ils soient dans la clarté, pas dans le brouillard.
Qu'il y ait des réponses.
Qu'il y ait des réponses. Mais toi, tu sais que si j'étais avec le papa à l'école, OK, on continue. Donc là, on a fini de laisser la place pour qu'il s'exprime. Je finirais par le brouillard en disant « Merci de votre confiance.
Mm. » Oui.
« J'accueille vos propos.
Mm. »
Comment on gère un couple quand il y a de la justification, quand on essaie... Bon, mettons que tu veux rester avec ta blonde ou ton chum.
L'infidélité.
C'est pire, tu vois.
C'est pas yard.
Mais moi, je suis ici pour donner des moyens.
Non, mais très, très sérieusement, tu sais, quand un ou l'autre utilise la justification, quand on parle des choses de la vie, l'éducation des enfants, le ménage ou ainsi de suite, y a-tu des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres? Parce que, tu sais, quand on a une certaine distance avec la personne qui fait de la justification, c'est une chose. Mais quand c'est la personne avec qui tu partages ta vie, puis qu'idéalement, tu veux continuer de la partager...
Ben, je te reprends les mêmes techniques que je viens de te donner. Tu peux, si il dit « je suis pas bien quand tu fais ça, tout ça, qu'est-ce que tu aimerais?
Ouais.
Qu'est-ce que tu voudrais? » Tu retournes la question. Ça pourrait être « je t'écoute.
Mm-hmm. »
Ça pourrait être prenons l'autre. Le perroquet.
Le perroquet,
c'est la même phrase que tu répètes. Mais on sait qu'on la connaît, cette technique-là, mais on l'utilise mal. Parce qu'habituellement, après 3 répétitions, on pète aux frettes.
Mm.
On fait « Hey, là, ça va faire! »
Exemple.
On va prendre le couple, tiens. Prenons le couple comme exemple avec le perroquet. Mettons que, Denis, tu fais des poils dans le lavabo, je suis assez à bout, là, je suis tannée, tu te ramasses pas, tu fais des poils, je suis tout le temps derrière de toi, nanana. OK?
Oui.
Ça peut partir de même.
Uh-huh.
OK. Donc, ça pourrait être le perroquet dire... Ça pourrait être le perroquet fusionné à l'avocat, mettons.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu vois les choses? Ouais, mais là, nanana, t'es... de toute façon, tu m'écoutes pas, là. Je suis là pour toi. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu aurais besoin?
C'est quoi ton besoin?
Tu sais, puis tu vas répéter la même question. OK? Puis ce que ça a de magique, c'est que toi, ça t'empêche d'aller dans des zones qui lui feraient du mal.
Ouais.
C'est comme si tu tenais la rampe. Mm-hmm. Quand tu répètes la même chose, ça t'évite de dire ce que tu voudrais pas. Parce que c'est ça le problème dans le couple.
Parce qu'à fleur de peau, y a des discussions qui peuvent devenir très émotives vite, puis tu peux perdre le contrôle.
Mais ça vient désamorcer, ça, c'est vrai. Ouais. C'est quoi ton besoin, là?
Puis tu peux répéter. Garde, je suis là pour toi. Rappelle-moi ce que tu as besoin. Puis l'autre finit par dire... ça donne rien. Ça coule.
J'ai envie de te demander, Paul, comment tu réagis à quelqu'un qui exige toujours des explications, à l'inverse? Parce que tu as des gens comme ça, qui demandent toujours, qui sucent toujours une justification ou un... Il faut tout le temps que tu aies une bonne raison solide là, pour tes choix.
Ben, moi, je te dis, l'avocat, c'est probablement ce que j'utilise le plus souvent.
Mmh.
Je vais demander à l'autre, précise-moi ton besoin. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ta question est large, précise. Tu sais, moi, là, je te le dis, là, je retourne beaucoup vers l'autre, de façon polie, là, tu sais, mais mettons, en conférence, des fois, qu'il m'arrive avec des questions grosses comme le derrière, puis tu sais que c'est pour te faire avoir, tu sais, il y en a que c'est pour te piéger, là. Tu sais, je vais dire, je trouve ça intéressant, mais pour vous donner une bonne réponse, dites-moi encore, précisez votre question. On répond trop vite. Donc, faites-vous confiance. Puis, moi, je vous dirais, si vous n'avez une à retenir, la méthode de l'avocat est une bonne façon de dégager et d'amener l'autre à préciser.
Paul, merci beaucoup. Je vais mettre en application tout de suite les choses, juste pour voir si j'ai bien compris. Paul, je continuerai jusqu'à 18 heures, mais là, tu comprends, il faut que je passe une pause. Puis là, Mathias est supposé de nous venir nous voir tantôt, puis il n'aime pas ça commencer en retard. Puis les filles aimeraient ça partir à 18 heures aussi. Puis Véro a bien hâte de faire ses nouvelles. Tu comprends tout ça?
Penses-tu que tu pourrais faire mieux la prochaine fois?
Toujours, toujours. Merci, Paul.
C'est un bonheur.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Il est 4h moins quart. Bon lundi, bon début de semaine. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour.
Gravel. Boulevard. Boulevard 101.
On regarde du coin de l'œil comment ça va, les ventes de billets pour le Centre Vidéotron qui va diffuser le match du Canadien jeudi soir. 12$ le billet. Et les profits vont à des bonnes œuvres qui ont été négociées entre l'équipe du Centre Vidéotron et l'équipe du Canadien de Montréal pour avoir les droits.
C'est reparti. Parce que c'est drôle, pendant le début de l'émission, on était un certain nombre de sections où on avait écoulé presque tous les billets. Et là, tu vois, on vient de rajouter deux sections dans les dernières minutes, la 109 et la 114, qui sont dans les coins. Fait qu'actuellement, on agrandit par les coins. Les portions longues de chaque côté de la glace sont quasiment pleines dans les 100.
En pourcentage, dans les 100, il y a combien de billets de vendus? 90?
Dans ceux qui sont mis en vente, mettons un 80.
OK.
Quand même.
Puis actuellement, si on regarde le plancher au complet, là, il y a 5 sections qui n'ont pas été mises en vente, puis il y en a 3 où il reste beaucoup de billets.
Sur le plancher?
Sur dans les 100.
OK, OK. Là, je me posais la question. Y a-tu du monde qui vont être assis sur la patinoire?
Faut que tu sois capable de voir l'écran qui est au-dessus.
Exact. T'as-tu l'impression qu'ils vont ouvrir le niveau 200 avant jeudi? Reste 3 jours.
Ça dépend du match de demain.
C'est vrai. Puis j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont se décider un peu plus dernière minute. T'as aussi le temps de regarder les plans.
Vous avez raison. Vous avez raison. Si c'est 2-2, il va y avoir pas mal plus d'intérêt que si les gens ont le feeling que la série se termine.
Tu sais, les restos et les pubs sont pleins, là.
Oui.
C'est bien sûr que le Centre Vidéotron va être plein.
Hey, moi, je pense que oui. Moi, tu vois, je pense que si la série peut se terminer au match de jeudi, parce que c'est possible, j'ai l'impression que là, il va y avoir encore plus d'intérêt.
Il n'y a pas d'enjeu. Non, je le vois complètement à l'envers. 2-2, il y a un enjeu. 2-2, il y a un enjeu, parce que celui qui gagne le match numéro 5, alors que célébrer l'élimination en 5, moi, j'ai l'impression que c'est moins glam qu'une série qui a des chances de s'en aller en 6 ou 7. Je peux me tromper, là, on voit tout ça de façon différente.
D'un bord ou d'un autre, de l'autre, c'est une excuse de vivre sans gang.
Ben oui,
de manière
ben oui.
De plus grande ampleur que... Tu sais, parce que les bars sportifs sont toutes pleines. Mm-hmm. On se le cachera pas, là. Les gens ont réservé pour les 7 matchs, mais s'ils savent pas que ça va se rendre à 7 matchs.
T'avais un bon argument tantôt aussi, parce que, tu sais, ce qui est le plus le fun d'un resto sportif, souvent, c'est dans les sections bars, puis dans les sections pubs, puis les gamins peuvent pas y aller. Mm-hmm. Mais au Centre Vidéotron, ben là, ça peut être une activité familiale bien le fun pour bien du monde.
Puis tu sais, les portes du Centre Vidéotron ouvrent à 18h, le match commence à 19h, les concessions vont être ouvertes, mais c'est à 12$. Là. Actuellement, le dollar loisir coûte une mini-fortune. Tu soupes en famille avant, tu te déplaces là-bas, tu manges une friandise avec les enfants, tu vis l'animation, l'ambiance pour la soirée. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds au Centre Vidéotron de leur vie. Là.
C'est vrai.
Pour des plus jeunes, je trouve, ben même n'importe qui, moi j'y vais. Là. Nos billets sont achetés, puis ça va être drôle. Je pensais jamais acheter des billets pour aller voir un match dans un aréna qui n'a pas lieu dans l'aréna en question.
Et c'est drôle parce que moi non plus, puis tu vois, quand l'annonce a été faite un peu plus tôt ce matin, ça a été un no-brainer de me dire « Hey, c'est sûr qu'on va être une gang à capoter. »
Ceux qui disent « Ouais, mais là, ils vont faire quoi avec cet argent-là? » C'est trois organismes qui vont ramasser les profits de cette soirée-là. C'est trois organismes à but non lucratif, bien sûr, soit la Fondation des Canadiens pour l'enfance, le Fonds d'études des remparts et le Centre de pédiatrie sociale de Québec.
On va regarder les principales nouvelles de l'actualité, là, dans de vous dire qu'on a 12 degrés présentement, c'était le maximum prévu pour la journée. Sur les routes, 418-971-1021, Audrey?
Il y a déjà des petits ralentissements à prévoir sur la capitale, direction Est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, c'est plutôt à la hauteur de Laurentienne. Si vous êtes sur Henri IV Nord, dans le coin de Val-Bélair, il y a un léger ralentissement hauteur de l'avenue Industrielle. Même chose devant la base militaire, route de la Bravo, ça se passe dans les deux directions. Si vous êtes sur route de Fossambeau, à la hauteur de la Jacques-Cartier, il y a un certain ralentissement à prendre en compte aussi. Ça commence à s'intensifier sur Henri IV Sud, je vous dirais, de Charest au pont. Si vous êtes sur Duplessis Sud, de chemin Sainte-Foy au pont, difficile également. Charest, direction Est, ça se passe à la hauteur de Robert Bourassa. Et pour ce qui est de la Rive-Sud, ça va quand même bien. Il y a la 20 direction Ouest, dans le coin de Taniata, où il y a un petit ralentissement, là, mais rien de catastrophique. Là. Autre chose, 88-971-1021, texto.
Bon, ben ça a de l'air que juste moi que ça excite, une série qui dure longtemps. Là, tout le monde pense comme Véro là, que si tu veux aller au centre Vidéotron, c'est pour voir le Canadien éliminer les Sabres.
Si tu veux le passage à la troisième ronde.
Pour vrai, une game, une série 3-1, c'est le match qui m'intéresse le moins de la série. Parce que si ça finit en 5, c'est fini.
C'est parce qu'il faut
si
que
ça continue, le match d'après va être hot, Denis, quand ça va être 3-2.
On sait déjà qui serait l'adversaire pour la prochaine ronde. L'adversaire qui est en train de se reposer deux pieds sur le pouf, de reprendre ses énergies. Je pense qu'il y a une question de, hey, au plus sacrant, on peut-tu finir cette série-là? Puis il y a tout plein d'affaires dans le désir d'une élimination en cinq matchs.
Plus vite ça va être fini, plus vite tu vas pouvoir commencer la troisième ronde avant que la deuxième ronde ne se termine. Ouais. C'est ça maintenant des séries dans la Ligue nationale de hockey.
C'est triste.
Véro.
Dans l'actualité, on parle beaucoup du dossier santé numérique. J'aimais ça lire les textes en fin de semaine sur le étape par étape de lancement. Tu sais, le moment où on s'est dit, OK, c'est beau, on pèse sur le bouton, puis tout est lancé, comment on a réagi, comment les problèmes ont été gérés au fur et à mesure, mais on s'entend dessus que, tu sais, quand tu ouvres un hôtel, au départ, tu ne l'annonces pas, ils appellent ça des soft openings, une ouverture en douceur.
Ils font ça avec des restos aussi.
Ils font ça avec des restos, ils ne l'annoncent pas nécessairement, fait que ça leur permet de tester, d'ajuster. Mais en fin de semaine, le DSN, c'était son soft opening. Fait que oui, il y a eu des problèmes. Mais le gros crunch, c'était franchement aujourd'hui. Certains ont qualifié ça de chaotique. D'un autre côté, on dit que les équipes réagissent très rapidement à gérer les problèmes au fur et à mesure. T'sais, actuellement, tu as un 6, un SUS qui sont nos cobayes pour le reste du système de santé. Fait qu'il y a beaucoup de forces vives qui sont sur le terrain, qui sont amenées à réagir. Puis d'ailleurs, on peut peut-être écouter un extrait de la première ministre Christine Fréchette par rapport à ce lancement.
Et moi, je veux saluer le travail des équipes parce que dans les centres concernés, ça s'est bien déroulé. Au cours de la fin de semaine, on voyait même déjà des membres du personnel dire que ça leur permettait de sauver déjà du temps dès la première fin de semaine. C'est quand même salutaire. Alors, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un volume plus important d'utilisation du nouveau système, mais je suis confiante que les équipes vont être sur le terrain, très actives.
Tu me donnes-tu quelques minutes pendant qu'on est dans le domaine de la santé pour chialer un peu?
Absolument.
Audrey, tu me donnes-tu la permission de chialer un peu?
Absolument, vas-y.
OK, parfait. Parce que j'allais sur le cœur depuis un matin, puis je l'ai pas digéré encore. C'est une phrase qui est cachée dans un texte du journal Le Soleil qui est super intéressant, et la phrase dit ceci. La télémédecine n'est pas dans les cartons de Santé Québec au moment où on se parle. Ouais. Voulez-vous bien me calistoffer tout ce monde-là dehors à grands coups de pied dans le cul? Après 2 ans, les Top Guns de Santé Québec, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est changer des problèmes de nom pour faire semblant qu'il n'y avait pas de problème. Et au moment où on se parle, ces grands génies de la santé n'ont pas dans leur carton la seule chance de salut de notre système de santé dans les 30 prochaines années. Bande de cônes!
Hey, j'ai une théorie à deux scènes. Il y a beaucoup de compagnies qui l'offrent on the side au privé.
Oui.
C'est parce que Santé Québec ne veut pas les jouer dans leur plate-bande.
L'idée, c'est quoi?
L'idée, désengorger.
C'est comme si du monde nous disait « Je ne crois pas à la roue. On va attendre que la mode passe. On va garder nos roues carrées. » Non, c'est parce que la roue, elle tourne. Ouais, mais ça va passer, ça.
On l'a-tu pas négocié avec les médecins? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas dans les cartons?
C'est pas dans les cartons.
C'est donc, mais fucky.
Il y a une urgentologue qui parle dans le texte du Soleil, puis sa théorie à elle, c'est qu'on a peur de tout ce qui est technologique dans le monde de la santé. On a peur que ça vole des jobs, on a peur que ça change les façons de faire. On est dans des vieux ministères encroutés, hein? Faut pas l'oublier.
Mais là, le problème... Un moment donné, il va falloir qu'on passe à... Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, même s'il y a des problèmes technologiques avec la lancée je préfère qu'il y en ait là à pleine pochetée pour
qu'on
les
avance,
deux prochaines années, mais que dans 10 ans, on soit cité comme du monde, par exemple. Oui, mais là, on souhaite 2 ans, là, mais tu sais, mettons que ça va vraiment mal. Tu sais, de dire qu'au moins, on a enclenché quelque chose.
On attend déjà devant un ordinateur pour acheter des billets du Canadien à 700$. On attend déjà devant un ordinateur pour s'assurer que notre enfant ait une place au camp de jour. On attend déjà devant un ordinateur pour des billets du festival d'été alors qu'on ne sait même pas qui vient. qu'est-ce qui est le mieux pour une mère avec son enfant de 6 mois qui est tout rouge puis qui braille? D'aller passer 16 heures à l'urgence ou d'attendre d'une file d'attente virtuelle 4 heures en avant de son écran à la maison avec son petit dans le berceau? Avez-vous pris sa température? Oui, oui, elle a pris. Il fait 38. J'en reviens pas. Nos visionnaires de Santé Québec qui sont même pas intéressés à regarder ce que ça pourrait amener la télémédecine. Alors que le péril bleu s'en vient. Bon, bleu, c'est la couleur à Richard, on s'en reparlera tantôt, là, le bleu, ça fait plus. On va dire du péril gris. Les cheveux gris ou les cheveux bleus.
Télémédecine qui prouve déjà que ça fonctionne bien en passant.
Tu l'as utilisé, toi, parce que c'est des services privés qu'on a avec nos assurances.
La majorité des entreprises ont ça maintenant avec les assurances, puis ça fonctionne super bien. Là, des fois, tu as juste un petit bobo, une inquiétude, ça marche tempête. Là. Ça peut même être téléphonique. C'est vraiment facile d'utilisation, puis ça pourrait vraiment désengorger nos urgences.
L'urgence a un temps d'attente moyen de 16 heures au Québec. Une personne sur 10 quitte l'urgence sans avoir vu qui que ce soit. Comment ça se fait que ces gens-là ne conçoivent même pas la possibilité de commencer à penser à rentrer la télémédecine all the way à grandeur du système?